Notre Père céleste, merci de ta présence, merci de ton amour, merci de ta bonté, merci pour ces moments que nous allons passer ensemble. Qu'il te soit agréable, enseigne-nous, parle à nos cœurs, parle Seigneur à nos esprits, notre intelligence, renouvelle-la afin que nous puissions nous blottir contre toi, mais aussi nous baser toujours, nous fonder sur ta parole. Et qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner ce matin? Au nom de Christ. Amen. Ce matin, nous allons regarder le rôle des pères. Alors, la Bible dit en Éphésiens, chapitre 6 et verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. » Vous allez dire, « Mais moi, j'ai déjà élevé mes enfants. » Oui, mais peut-être que vous allez aider un petit peu avec vos petits-enfants. Vous me dites, mais moi, oui, je suis en train d'élever mes enfants. Alors la question du Seigneur ce matin, c'est, est-ce que vous élevez en tant que parents les enfants selon le Seigneur? Et vous allez me dire, moi je ne suis pas marié, ce message ne me concerne pas. Eh bien, une bonne nouvelle pour vous, on espère que vous vous marierez un jour. Et que vous serez un père, une mère, et que vous devez apprendre dès aujourd'hui à savoir ce que dit la Bible au sujet de l'éducation de vos futurs enfants. La Bible ne laisse rien au hasard. Dans le Nouveau Testament, il y a deux versets qui parlent de l'éducation des enfants. Et on pourrait se dire, mais pourtant ce sujet si important, comment se fait-il qu'il n'y ait que deux versets dans le Nouveau Testament qui parlent de l'éducation des enfants ? Parce qu'il y a un livre tout entier dans l'Ancien Testament qui parle de l'éducation des enfants, c'est le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes met notamment l'accent sur le rôle des pères, à savoir que devant Dieu, le père est responsable de l'éducation des enfants. Certainement, il délègue dans son foyer et à son épouse des responsabilités et conjointement, ils élèvent les enfants, c'est évident que le rôle de la maman est tellement important, mais il n'empêche pas moins que devant Dieu, c'est le père qui est responsable de l'éducation des enfants. Alors, comment envisagez-vous ou comment élevez-vous les enfants? Juste rapidement pour accrocher peut-être dans le contexte ceux qui ont peut-être oublié ou ceux qui viennent à l'instant, nous sommes en train de regarder la marche du croyant par l'esprit. On a regardé à partir du chapitre 4 la marche dans l'unité, dignement, la marche dans l'unité, la marche contraire à la marche païenne, la marche en nouveauté de vie, la marche dans l'amour de Christ, la marche dans la lumière, la marche dans la sagesse. Et Paul commence au verset 18 en disant « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit ». Et cette application se trouve en tant qu'individu, d'être rempli de l'esprit, au sein de l'Église, dans la famille, dans le couple, dans la relation enfant-parent, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, et dans la relation parent-enfant, nous continuons à regarder ce que c'est que d'être soumis à la directive du Seigneur et d'être rempli du Saint-Esprit dans notre comportement, dans la société, dans le combat spirituel, dans notre vie de prière et dans notre témoignage. La dernière fois, nous avions vu ensemble, dans le couple, que la soumission est donnée, non seulement réciproquement, mais particulièrement à l'épouse, qui a pour rôle d'aider et de se soumettre, le mari de diriger, d'être un leader-serviteur, et ainsi d'élever les enfants selon le Seigneur. Mais la responsabilité des enfants étant d'obéir et d'honorer. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Le rôle des parents, c'est d'amener les enfants à obéir et à honorer leurs parents. Juste deux termes. Obéir, honorer. Obéir, honorer. Obéir, honorer. Maintenant, concernant les parents, la Bible dit « Père ». Ici, dans le grec, le mot pourrait être traduit comme il est traduit parfois par « parent », mais c'est le mot qui, normalement, est traduit par le mot « père », dont la parole s'adresse au père et dit « n'irritez pas vos enfants », c'est un commandement négatif, mais « élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». C'est donc que Dieu nous donne un guide de la route pour élever les enfants. Et nous devons veiller à ce que ce que nous transmettons à nos enfants et la façon avec laquelle nous élevons correspondent réellement à ce que Dieu désire pour nos enfants. comme j'ai déjà mentionné, c'est le diable qui attaque la famille aujourd'hui. Et par cette brèche, n'est-ce pas, il attaque la société entière. En attaquant la famille, le diable attaque la société. Or, Dieu a institué le mariage, il a institué le foyer, selon le Seigneur, afin que le foyer soit une pierre de stabilité au sein de la société. Et on sait combien aujourd'hui la famille est attaquée et combien la société est attaquée. La preuve, les décisions encore récemment prises, n'est-ce pas, au sujet de la famille. Donc nous allons regarder ce que dit la Bible, et la Bible s'adresse particulièrement au père. « Père, n'irritez pas vos enfants ». C'est donc qu'il y a un commandement ici à respecter, un commandement négatif qui est un avertissement, et un commandement positif, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Je veux dire, mais ce n'est pas facile d'élever les enfants. Toute génération des parents disent quelque part, ce n'est pas facile d'élever les enfants. Il y a ceux qui ont du succès, ceux qui ont moins de succès, et ceux qui vivent des choses extrêmement difficiles. Donc nous allons regarder ce que dit la Bible au sujet de l'éducation des enfants ce matin, en résumé, parce que le sujet est très vaste, n'est-ce pas ? Donc nous allons regarder, par rapport à ce texte, ce que dit la Bible. La Bible dit que la responsabilité d'élever les enfants, c'est le rôle du père, essentiellement. Le rôle du père, parce qu'il est le chef de la famille, le chef du foyer. Et qu'il est responsable devant Dieu à diriger le foyer, et à être celui qui, en fin de compte, un jour sera le responsable devant Dieu et jugé devant Dieu pour l'éducation de ses enfants. Excusez. Alors, l'époux est le chef du foyer, et il faut dire que parfois, c'est le père qui néglige l'éducation des enfants. Une fois, un pasteur bien-aimé, que j'aimais bien, il est venu à la maison, il s'est tourné vers ma femme, il a dit « Louis, je te félicite de la façon dont tu élèves les enfants. » Je n'étais pas d'accord, parce que c'est une fausse conception, même si, merci Seigneur, que mon épouse a voulu suivre le Seigneur pour élever nos enfants, et gloire à Dieu pour les mamans qui élèvent les enfants selon le Seigneur, mais c'est le rôle du père et de la mère. Et le père a tendance à dire « Oh, moi, je vais travailler, j'ai mes loisirs, j'ai les responsabilités de la maison, donc je délègue l'éducation de mon enfant ou de mes enfants. » C'est le rôle de la maman. C'est elle qui a donné naissance à l'enfant, n'est-ce pas ? Et donc, elle va s'occuper de l'enfant. C'est une grave erreur de penser comme cela. C'est pour ça que la Bible dit « Père, élevez vos enfants », même si ça s'adresse aux deux parents. Mais « Père », il y a un accent qui est mis, en tout cas, c'est clairement souligné dans le livre des Proverbes, parce que le père a parfois tendance à négliger l'éducation des enfants. La Bible dit, à propos de l'ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Et concernant les diacres, il est écrit, ils doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Voyez-vous, même dans le Nouveau Testament, ici encore, concernant le rôle des anciens et des diacres, l'accent est mis sur les responsables du foyer. Les diacres, les anciens, doivent être des modèles dans l'éducation des enfants et savoir ce que Dieu veut pour leurs enfants. Comment les élever selon le Seigneur ? Est-ce que nous élevons les enfants selon le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur est au centre de l'éducation de nos enfants ? La première chose que le Seigneur nous demande, c'est d'élever les enfants. Une remarque, c'est le texte grec est à la voix active, au mode impératif, au temps présent, pour dire tout simplement que c'est une action que les parents doivent faire sur les enfants, parce que les enfants ne grandissent pas automatiquement pour être ce que Dieu veut qu'ils soient. Il y a une philosophie qui dit qu'il faut laisser libre l'enfant de pousser, surtout ne pas créer, n'est-ce pas, des frustrations pour qu'ensuite il soit imbibé de toutes sortes de complexes, etc. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. La Bible dit que ce sont les parents qui élèvent leurs enfants. Ce n'est pas aux enfants à s'élever soi-même. Il n'y a rien de plus horrible d'entrer dans un foyer et de voir un enfant qui est roi et maître au sein, même à l'âge de 2 ans. Il mange ce qu'il veut, il parle quand il veut, il dit ce qu'il veut, enfin, s'il arrive à parler à 2 ans, mais vous comprenez l'idée. Et ça continue avec les années. Je suis le maître de la maison, c'est moi qui suis le petit roi ici. Il n'y a rien de plus horrible que cela, parce que ce qui doit être le roi dans nos foyers ? Le Seigneur. et on doit apprendre à nos enfants la soumission, et on doit apprendre à nos enfants l'humilité. Pourquoi est-ce que les parents doivent influencer leurs enfants? Parce que la Bible dit ceci, et c'est très clair, Proverbe 22, verset 15, « La folie, vous allez dire, mais quand même, mes enfants, ils sont nés fous. » Oui, oui. « La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge, la correction l'éloignera de lui. » Dans le livre des Proverbes, la folie est opposée à la sagesse de Dieu. La folie, c'est la voie de l'insensé. Lisez le livre des Proverbes et soulignez tous les contrastes entre la voie de la sagesse et la voie de l'insensé qui est la voie de la folie. Or, la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Nous qui avons été d'abord des enfants, on sait les bêtises que nous avons pu faire, n'est-ce pas? Et nous qui sommes parents, on a vu chez nos enfants cette aptitude à être quelque part déréglé. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La Bible dit que nous avons besoin d'agir sur nos enfants, qu'ils ne peuvent pas pousser naturellement comme bon leur semble, que ce sont les parents qui doivent donner un cadre, pas les enfants, les parents qui doivent donner un cadre pour l'éducation de leurs enfants. Deuxièmement, les enfants, il nous est demandé de les élever, c'est un impératif, ce n'est pas juste quelque chose que l'on doit faire comme une option. C'est vraiment la responsabilité des parents, père et mère. Et pour cela, ils doivent prier quand ils sont chrétiens, mettre cela devant le Seigneur, passer du temps ensemble pour réfléchir, savoir comment élever les enfants à leur âge, selon leur âge, n'est-ce pas, discerner, comprendre la volonté de Dieu et discerner la sagesse de Dieu pour élever les enfants. En plus, les enfants sont différents les uns des autres. Donc nous devons, en tant que parents, demander la sagesse à Dieu. Et ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif, c'est un commandement. Et enfin, le temps est au présent, cela signifie qu'on ne cessera jamais ce processus. À partir du moment où nous donnons naissance à un enfant, nous sommes parents certainement pour toute la vie, mais le principe de l'éducation, jusqu'à ce que les enfants partent et volent de leurs propres ailes, c'est une action continue. Ce n'est pas qu'un jour ça me dit d'élever mes enfants. Et un autre jour, oh non, là je suis fatigué, je vais faire autre chose. C'est une action permanente, c'est un commandement, et c'est quelque chose que l'on ne peut pas trouver comme facultatif. C'est une éducation, une responsabilité que Dieu a donnée de façon permanente aux parents, même si parfois certains voudraient fuir leurs responsabilités, confier leurs enfants à d'autres, n'est-ce pas? C'est pas à l'école à élever les enfants, c'est pas à l'État à élever les enfants, c'est aux parents à élever les enfants. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Alors, les objectifs à atteindre, évidemment, c'est d'amener nos enfants à connaître Jésus-Christ et à lui faire confiance. Maintenant, ce n'est pas parce que votre enfant a prié à l'âge de 4 ans, « Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés et sauve-moi » qu'il est réellement sauvé. Maintenant, il se peut qu'il ait été sauvé à 4 ans. C'est arrivé à quelques-uns de nos enfants qui ont manifesté, dès le moment où ils ont accepté le Seigneur, une transformation dans leur vie. Mais il se peut que l'enfant, dans un élan sentimental, pour plaire, se repose sur la foi des autres et fait ce qu'on lui demande, ce qui est peut-être pas mal. Mais nous devons veiller, surveiller à ce que l'enfant réellement accepte le Seigneur. Et pour cela, nous ne devons pas juste nous confier dans une simple prière à l'école dimanche, quoiqu'elle était peut-être sincère, mais nous devons veiller au travers des années à voir vraiment le fruit d'une véritable transformation. Et nous devons amener nos enfants à être de vrais disciples. Je me souviens d'un couple qui pensait que leur enfant avait accepté le Seigneur à l'école du dimanche, ils étaient tout heureux, mais avec les années, le discernement et l'observation de sa vie montraient bien que l'enfant n'était pas régénéré. Mais nous ne devons pas nous contenter simplement du salut. Regardez bien ce que je veux expliquer cela. Nous devons veiller à ce que nos enfants soient des disciples, ce qui prouvera qu'ils ont vraiment accepté le Seigneur. Il y a des parents qui se contentent trop facilement d'une apparence spirituelle et qui malheureusement, avec les années ou parfois l'adolescence, démontrent exactement l'inverse. Nous devons avoir des enfants et les élever pour qu'ils soient des disciples de l'Éternel. Il y a un verset personnellement qui m'a beaucoup touché en tant que papa, jeune papa, et papa de 6 enfants. « Tous tes enfants, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Et je me suis appuyé sur ce verset, je dis « Seigneur, sauve, sauve nos enfants. » Mon épouse et moi-même, nous avons souvent prié, même avant leur naissance, que le Seigneur les sauve. Lorsque Louise était enceinte, nous pouvons déjà prier pour leur salut. Nous pouvons prier déjà que le Seigneur les consacre et face de ceux qui veulent, nous pouvons prier et les élever à être de vrais disciples. Après, à les préparer à quitter le nid conjugal, le nid familial. Oh là là. Les lapsus des horaires un peu courts de la nuit. Hein. J'espère que dans l'enregistrement, ça paraîtra correctement. Donc, les préparer à quitter le nid familial. Non, il ne faut pas avoir les enfants dans le lit conjugal. Les enfants qui dorment avec les parents, d'ailleurs, c'est particulièrement déconseillé, je vous le dis. Voilà. Alors, parce qu'un jour, les enfants s'envolent. Et le succès, c'est quand les enfants partent et réussissent leur vie, parce qu'ils font un transfert de la foi de leurs parents dans la foi en leur Seigneur, et qu'ils ont une foi personnelle basée sur leur propre expérience de la lecture de la parole et leur propre expérience spirituelle. Un jour, les parents doivent accepter que vraiment le cordon ombilical est définitivement coupé. On a remarqué, ma femme et moi, que quand nos enfants sont partis ou se sont mariés, bon, on leur dit « bon voyage, c'est votre voyage maintenant ». Mais ils reviennent quand même à la maison. Ils nous disent « mais papa et maman, cet été, où allez-vous passer les vacances? Est-ce qu'on peut venir avec vous ?» Ben nous, ça nous fait vraiment plaisir. On se dit, ben, pourtant, ils ont bien des amis, etc. Parce que quelque part, la relation continue. Mais c'est une relation d'adulte à adulte qui n'est plus la même qu'avant. Nos enfants mariés sont des adultes. Ils prennent leurs décisions. Ils ne nous appellent pas pour prendre leurs décisions. Ils peuvent demander des conseils. Mais ce n'est pas nous qui prenons les décisions pour eux. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ils doivent devenir autonomes, responsables, diriger leur vie. Et les parents ne peuvent pas créer une dépendance envers leurs enfants, notamment quand ils sont jeunes et même après quand ils sont mariés. C'est les enfants qui sont des disciples de l'Éternel qui apprennent à vivre par eux-mêmes. Et nous devons veiller à ce que nos enfants, quittant la maison, sachent vivre par la foi, aimer le Seigneur et être des disciples qui eux-mêmes un jour feront d'autres disciples avec leurs propres enfants. Le flambeau spirituel, l'héritage spirituel, doit pouvoir se communiquer par la grâce de Dieu de génération en génération. Et non pas avoir des générations comme au temps des juges où chacun faisait ce qui lui semble bon. Où on voit une première génération qui connaît le Seigneur, une deuxième plus ou moins consacrée et une troisième qui a perdu l'héritage spirituel, qui ne cherche même plus Dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux cela. Et c'est une crainte de l'Éternel que nous devons avoir en tant que parents, que l'héritage spirituel se transmette, n'est-ce pas? Et de génération en génération pour la gloire de Dieu. Est-ce que nos enfants sont des disciples de l'Éternel? Est-ce que vos enfants sont des disciples de l'Éternel? Bien sûr, il y a place pour prier toujours, et notamment leur salut. Et il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre pour eux, ils prennent leurs propres décisions dans les choses spirituelles, et ils sont responsables devant Dieu. La Bible dit de ne pas irriter les enfants. Ne pas irriter les enfants, littéralement, on pourrait traduire par ne pas provoquer jusqu'à la colère. Pour cela, j'ai marqué une liste ici, tirée, je crois, du livre de John Mack, hein, l'unité conjugale que certains ont utilisée pour se préparer à leur mariage avec moi et Louise. Donc, ne pas attendre d'eux puisqu'ils sont capables de donner. Faire connaître à nos enfants nos attentes et nos règlements. Pratiquer ce que nous prêchons, ne pas avoir des doubles standards. Certains enfants se rebellent et s'exaspèrent parce que leurs parents vivent différemment de ce qu'ils disent. Autrement dit, l'hypocrisie des parents empêche l'enfant de vouloir vivre dans la vérité. Avoir de bons moments avec eux, leur permettre d'échouer, de faire des erreurs, d'avoir des défauts. Nous ne sommes pas parfaits et nos enfants ne sont pas parfaits. Ils nous ressemblent beaucoup d'ailleurs. Et puis nous devons leur donner la place à l'erreur et même à échouer. Admettre nos propres erreurs à leur égard. C'est bon pour les parents de s'humilier devant les enfants et d'aller demander pardon quand c'est nécessaire. Parce qu'après on peut leur demander aussi qu'ils apprennent à demander pardon envers leurs frères et sœurs ou même envers nous les parents. À chercher à réparer les torts, à demander pardon et à savoir pardonner, à se rendre accessible et disponible, à être serviable. Alors, ce n'est qu'une petite liste, il y en aurait beaucoup d'autres. J'aimerais vous relever 10 causes possibles que un autre commentateur donne dans un de ses livres concernant l'exaspération des enfants qui amène à la colère. La surprotection, tout d'abord, bien intentionnée, est souvent une cause de ressentiment chez les enfants. une père, une mère qui surprotège l'enfant, qui est tellement craintif qu'il arrive quelque chose à l'enfant, que l'enfant est toujours bloqué, et il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, finalement il perd confiance en lui. Surprotection. Les parents exaspèrent leurs enfants faisant preuve de favoritisme, en comparant les enfants, leurs qualités, leurs défauts, et finalement en n'aimant pas leurs enfants pour ce qu'ils sont. Le favoritisme exaspère les enfants. Vous savez que dans la Bible, il y a des cas de favoritisme. Isaac aimait bien Ésaü, Rebecca aimait bien Jacob. Et la fin de l'histoire, c'est que Ésaü et Jacob ne se sont pas très bien entendus. Et Ésaü particulièrement est devenu extrêmement irrité. Même il voulait jusqu'à tuer son frère. Les parents exaspèrent leurs enfants en fixant des buts irréalistes. Les parents exaspèrent leurs enfants ne leur manifestant pas d'affection. Je me souviens, en tant que pasteur à Québec, il y a une jeune femme qui m'a dit « Mais mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Mon père ne m'a jamais pris dans ses bras. » Alors, elle n'avait qu'un désir, c'est que son père la prenne dans ses bras. Manifester l'affection est quelque chose de sain et quelque chose qui rassure l'enfant et qui lui démontre une affection naturelle de la part des parents. Les parents exaspèrent leurs enfants, donc en ne manifestant pas d'affection, en ne pourvoyant pas leurs besoins, parfois c'est le cas, en ne fixant pas des normes. Un jour, je suis irrité, l'enfant va être puni à cause de ce qu'il a fait là, et le lendemain, je suis de bonne humeur, donc l'enfant peut faire la même chose, il n'aura aucune punition. Ça, c'est jouer au yo-yo avec l'enfant, et c'est créer une insécurité chez l'enfant. Les parents doivent être constants dans la façon d'élever les enfants, de les réprimander. Ils doivent avoir des règles équilibrées, des normes équilibrées, constamment appliquées avec sagesse, de manière à ce que les enfants soient heureux. D'ailleurs, un enfant qui manque de cadre, de discipline, est un enfant souvent insécure et malheureux, alors qu'un enfant qui sait exactement quelles sont ses limites est un enfant joyeux. C'est beau de voir des parents élever les enfants dans le Seigneur et de voir toute une famille joyeuse. Et c'est un bon signe. Ils exaspèrent les enfants en les critiquant, en les dénigrant. Je me souviens d'une dame au Québec qui disait toujours « Mes enfants sont des incapables ». Son mari était aussi un incapable, il faut dire. Et jusqu'à ce qu'un des professeurs de l'école chrétienne où elle les a placés, il a dit « Écoutez, votre problème, madame, ce n'est pas vos enfants, c'est vous ». À force de leur dire qu'ils sont incapables, ils deviennent incapables à l'école. Mais ils ont des capacités, ils vont réussir. Cessez de leur dire qu'ils sont incapables. Elle a dû se repentir, cette dame, parce qu'en voulant aimer les enfants, en les critiquant, elle faisait exactement, elle aboutissait exactement au résultat inverse de ce qu'elle voulait. On peut aussi négliger ses enfants. David n'a pas beaucoup passé de temps avec Absalom, par exemple, dans la Bible, n'est-ce pas? Et puis on peut aussi exaspérer les enfants en leur infligeant des corrections exagéré. Une correction physique, notamment faite sous la colère ou faite de façon inappropriée, exaspère énormément l'enfant et crée en lui un sentiment de l'injustice qui est appliquée dans sa vie. Voici une confession, je vous laisse le lire tout en même temps que je le lise. La confession d'un père. Mes enfants sont maintenant grands et ont tout quitté la maison. Mais si c'était à refaire, voilà ce que je ferais. J'exprimerais plus mon amour à ma femme devant mes enfants. Je rirais plus avec mes enfants de nos erreurs comme de nos joies. Je les écouterais plus, même les plus petits. Je reconnaîtrais mieux mes propres manquements et ne prétendrais pas plus à la perfection. Je prierais différemment pour ma famille. Je les encouragerais, les complimenterais plus. Je ferai plus attention aux petites choses, les petits gestes et les petits mots attentionnés. Et puis finalement, si c'était à refaire, je parlerai plus de Dieu à mes enfants. Chaque chose ordinaire qui se produit durant chaque journée ordinaire me servirait à leur montrer l'action de Dieu. Voyez-vous tous les plus qu'il a manqué et qu'il regrette aujourd'hui, qui sont devenus des moins. Un jour, il y a un père de famille, c'est une histoire véritable que j'ai entendue dans une illustration d'un message, un père a élevé ses enfants, mais il était tellement occupé. Et quand l'enfant voulait jouer avec lui, quand l'enfant demandait quelque chose, le père disait « je suis trop occupé, plus tard, je suis trop occupé ». Et le père a vieilli, il est à la retraite et il est de plus en plus vieux, il se sent isolé quelque part dans un coin perdu. Il appelle son fils, il aimerait tellement que son fils vienne le visiter. Il aimerait tellement passer du temps avec son fils. Et il l'appelle finalement, il se décide à l'appeler, il dit « peu importe le prénom, est-ce que tu peux venir à la maison? J'aimerais tellement te voir. Et le fils de répondre immédiatement, mais papa, tu sais, je suis tellement occupé. Nous récoltons ce que nous semons en tant que parents. Et c'est une grande vérité qui n'est pas bon d'entendre parfois. Mais nous récoltons souvent ce que nous semons dans le cœur des enfants. En les corrigeant selon le Seigneur, nous devons expliquer ce que ça veut dire ici, élever-les dans la discipline du Seigneur. Le mot grec ici vient du mot en fait « enfant ». Ça désigne la formation systématique des enfants. Ça, l'idée, un peu le mot grec pourrait aussi donner quelque part le mot français, la pédagogie. La pédagogie, la façon d'élever nos enfants peut être par des corrections physiques ou des reproches verbaux. Mais ce mot ici correspond aussi au châtiment de Dieu et correspond au châtiment physique que les parents doivent exercer envers leurs enfants. Autrement dit, la correction physique fait partie de la correction que Dieu veut que les parents exercent envers leurs enfants. C'est aux parents à discipliner les enfants et à les corriger physiquement. C'est un sujet qui n'est pas très populaire, n'est-ce pas ? Où les parents peuvent être convoqués à l'école parce que les enfants, où on dit un mot là-dessus, et vous savez que dans notre système surprotecteur vis-à-vis de la relation parent-enfant, enfant-parent, il y a parfois eu des exagérations où des parents ont vraiment corrigé leurs enfants de façon complètement inappropriée, avec violence, sans amour et de façon méchante, je dirais. Ce n'est pas du tout, ou sous la colère, ce n'est pas du tout ce que Dieu appelle la correction physique. Pourquoi est-ce que nous devons corriger nos enfants sur le plan physique ? On va y venir et rapidement, c'est tout un sujet qui prendrait une heure au moins de discussion, la correction physique. Mais on veut établir le fait que Dieu prévoit la correction physique pour les enfants. De façon appropriée, on va en parler un petit peu. Tout d'abord parce que nos enfants ne sont pas de petits anges. Vous avez remarqué ? Ils peuvent mentir, ils peuvent tirer les cheveux de leur petit frère ou petite sœur nouveau-né, enfin, ça, quelques mois plus tard. Ils peuvent dire des paroles grossières. Ils peuvent même se révolter contre leurs parents. Ils peuvent bouder, peuvent se mettre en colère, peuvent casser des choses, et ainsi de suite. Vous avez remarqué, vous, parents ? Et vous, enfants, comment vous étiez ? Vous vous souvenez quand vous étiez ? Ben, la Bible dit, nous étions nous aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et la Bible dit, l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est dans le livre des Proverbes, et dans le livre des Hébreux, chapitre 12, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car est le fils qu'un père ne châtie pas. Je me souviens d'un médecin belge qui a quelque part reçu chez lui une jeune fille, alors qu'il avait déjà des enfants. Et la jeune fille rêvait qu'une chose, finalement, qu'elle soit adoptée par cette famille qui était chrétienne. Et à un moment donné, le père en a eu vraiment assez par l'attitude de la jeune fille. Et il l'a prise dans un coin et il l'a châtiée comme les autres enfants. Et vous savez ce qu'a dit la petite fille ? Ah, tu m'aimes maintenant, comme tes enfants. Parce qu'elle a reconnu que le fait qu'il la corrige comme ses propres enfants, ça voulait dire qu'il l'aimait comme ses enfants. Et l'histoire dit que, finalement, elle a été adoptée par cette famille et est devenue une belle jeune fille dans le Seigneur. Donc nous devons apprendre à corriger nos enfants afin qu'ils fassent les bons choix. Dieu dit qu'il faut les élever avec discipline, celle du Seigneur. On va y venir. La discipline du Seigneur est celle qui est enseignée dans la Bible et celle que Dieu exerce envers ses enfants. Il n'y a aucun doute que Dieu exerce une discipline envers ses enfants. Ce n'est pas qu'on ressente toujours la même de Dieu, n'est-ce pas, quelque part, mais il est clair que quand nous nous dérogeons de la volonté de Dieu, Dieu nous châtie de différentes façons afin de nous ramener vers le bon chemin. Pourquoi ? Pourquoi fait-il cela ? Parce que Dieu est juste, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il veut être en communion avec nous. Les parents sont tranquilles lorsqu'ils élèvent leurs enfants selon le Seigneur, même s'il y a un prix à payer. Je me souviens, ma femme, un jour, en élevant les 6 enfants, un soir en rentrant, elle m'a dit « J'en ai assez de corriger les enfants ». Mais elle a bien fait de persévérer. C'est vrai, c'est tout un job. Et des fois, délégué. Quand papa arrivait, les enfants disaient « Oh, oh !» Mais ils savaient ce qu'ils attendaient. Un jour, j'ai pris un de mes enfants et je me souviens, on avait quelque chose de souple pour frapper sur les fesses et je punissais avec sérieux et amour. Et il riait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là, cette fois-ci? Puis jusqu'à ce que je découvre qu'il avait mis 2 jeans, 3 sous-vêtements, il était très fier de dire, ça me fait pas mal. Mais il a eu quand même sa déculottée après, je vous le dis. Principe biblique clé. Retenez cela, s'il vous plaît. Je peux vous donner toutes mes notes pour ceux qui le désirent. Communiquez ce que vous attendez de vos enfants clairement du fait que vous attendez une obéissance immédiate. Quand Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 22, « Abraham, va, sacrifie ton fils. » Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est allé. Le principe de l'obéissance immédiate. Quelqu'un a dit, lorsqu'un enfant n'obéit pas immédiatement, il pêche. Lorsqu'un père, une mère répète l'ordre, c'est lui qui pêche. C'est un principe qui doit être établi. Bien sûr, si ma femme dit « Michel, le repas est prêt », et je suis devant l'ordinateur, je suis en train de faire un PowerPoint pour un bon message un dimanche matin, et j'ai besoin encore de 2-3 minutes. Je peux dire, écoute, Louis, est-ce que je peux avoir 5 minutes pour finir? Elle va comprendre, n'est-ce pas? Mais avec nos enfants, il faut agir comme ça. S'ils sont en train de faire quelque chose, on leur demande quelque chose, il faut comprendre qu'ils vivent aussi dans leur monde. Mais à un moment donné, quand c'est clair que l'ordre est passé et qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire, ils ne le font pas, c'est la désobéissance. Et la désobéissance est quelque chose qui déplaît à Dieu. L'obéissance plaît à Dieu. Et nous devons apprendre à élever nos enfants dans l'obéissance immédiate. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai peur de court-circuiter un petit peu les choses. Mais retenez les principes, quitte à réfléchir là-dessus, et on peut en reparler si vous voulez. Mais l'obéissance immédiate est un principe. Obéir plus tard est une forme de désobéissance. Ça vous est jamais arrivé de désobéir à Dieu parce que vous avez obéi un petit peu plus tard? Mais quand même, ça aurait été mieux d'obéir plus tôt. C'est dans nos vies, cela. Alors, avec nos enfants, soyons équilibrés quand nous leur demandons quelque chose, mais attendons une obéissance immédiate. Et puis, lorsque les enfants désobéissent, administrons des punitions, surtout lorsqu'il y a la rébellion. Brièvement, il est clairement dit à peu près que la 90% de la correction physique, attachez vos ceintures là, se fait, zéro c'est un peu difficile à dire, zéro, mais jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après de 6 ans à 10 ans, le reste. Normalement, un enfant à partir d'un certain âge n'a plus besoin de correction physique. Mais la correction physique fait partie de l'éducation, surtout des jeunes enfants. Donc nous devons apprendre aussi à leur donner des mots d'encouragement. Pas simplement... je vais trop vite, non? Pas simplement des réprimandes. Nous devons renforcer le comportement positif de l'enfant, l'encourager. Nous sommes dans un pays en France où on est très négatif. On a la sinistrose et le négativisme comme philosophie de vie, de rapport entre humains ou des parents vers les enfants. Souvent, j'ai remarqué cela. Et qui n'en a pas souffert? Mais les mots d'encouragement de la part des professeurs, c'est rarissime. Un enfant qui a des difficultés, qui est encouragé parce qu'il fait des efforts pour aller plus loin. C'est rarissime parce qu'on n'apprend pas dans l'éducation française à encourager les enfants. Et c'est triste cela, parce que chaque enfant est doué, chaque enfant a des talents. Et on doit renforcer ses talents, ses aptitudes, ses capacités pour la gloire de Dieu, d'autant plus que nous sommes chrétiens, et les valoriser. Nous devons apprendre, d'ailleurs même dans l'Église, à valoriser les dons les uns des autres. C'est une forme d'encouragement mutuel. Alors, qu'est-ce que c'est que la punition? La punition, c'est la correction physique qui est le moyen principal, surtout chez les très jeunes enfants, devrait être accompagnée d'instructions. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. 2 sociologues ont fait une étude pour savoir quel serait le pourcentage ou la chance que tel enfant deviendrait délinquant. Et leur étude a fonctionné en application à 90%. Pour déterminer si des enfants de 5 ou 6 ans allaient devenir des délinquants. Ils ont découvert qu'il fallait 4 éléments pour prévenir la délinquance d'un enfant. La discipline ferme, juste et conséquente du père. La supervision et la présence constante de la mère durant la journée. la démonstration libre par les parents de leur affection mutuelle, de celle qu'ils ont pour leurs enfants, et du temps que la famille passe tous ensemble dans des activités auxquelles chacun participe. Discipline, affection visible dans le couple, manifestée avec les enfants, présence de la mère, et activité commune. Vous savez, c'est quelque chose de bon sens tout cela. Ce n'est pas une redécouverte. Et pourtant, nos familles, notre société, et même les familles chrétiennes, ont souvent oublié ces principes tout simples. Les parents devraient donner les punitions d'un commun accord et avec cohérence. Les parents devraient appliquer les sanctions avec suffisamment de vigueur afin d'ôter chez l'enfant le désir de récidiver. Il n'y a rien de plus terrible qu'un enfant qui est réprimandé et 5 minutes plus tard, il fait la même chose. 10 minutes plus tard, 1 quart d'heure, le jour suivant, et les parents laissent faire. Et finalement, ça renforce le comportement négatif et ça crée une attitude, un comportement fréquent chez l'enfant et finalement aboutit à un caractère. Nous bâtissons le caractère de nos enfants en tant que parents. Donc c'est vrai que c'est un véritable travail, reconnaissant que ça prend du temps, de la prière. Nous devons aussi leur administrer les punitions avec amour et avec équilibre. Et là, on pourrait dire beaucoup de choses ici. Et enfin, la dernière chose qu'il nous est demandé en tant que père, vous vous souvenez, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les instruisant. C'est l'idée de les corriger verbalement, physiquement, et en les instruisant selon le Seigneur. Ici, le mot « instruire » dans le grec signifie « mettre dans l'esprit » ou « placer dans l'esprit ». Qu'est-ce que les parents devraient mettre, à votre avis, dans l'esprit de leurs enfants? Certainement, être modèle devant leurs enfants, le comportement des parents, le comportement des amis, etc., devrait influencer les enfants. Mais certainement, les grandes vérités de la parole de Dieu devraient être inculquées à nos enfants. Ne laissez pas le privilège aux moniteurs de l'école du dimanche avec la belle vocation, si belle et belle leur vocation. Mais ne laissez pas ce privilège aux professeurs d'école dimanche ou à l'église d'élever vos enfants et de leur enseigner la parole. Prenez du temps à enseigner la parole de Dieu à vos enfants selon leur niveau et selon peut-être votre propre capacité. Mais vous pouvez avoir beaucoup d'imagination pour rendre vivant l'instruction biblique à vos enfants. Que vos enfants aient un but dans la vie, c'est de lire toute la Bible. J'ose pas vous demander ici combien ceux parmi vous, issus de familles chrétiennes, qui ont lu déjà toute la Bible, le résultat serait peut-être surprenant. Enfin, surprenant dans le sens que peut-être beaucoup n'ont jamais lu toute la Bible. Combien des enfants de familles chrétiennes ne prennent pas le temps d'avoir un culte personnel après certainement un certain âge? Mais on doit apprendre à nos enfants à lire la Bible, à aimer la Bible, plus que la télévision, plus que les loisirs. Parce que ce monde passe et la convoitise aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Quelle est la priorité dans nos foyers? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons ce livre au centre de nos vies? Est-ce que nous instruisons nos enfants avec cette parole? Est-ce que nous la lisons, nous la méditons? Est-ce que nous avons un culte familial? Est-ce que nous prenons le temps de lire ce livre afin de réformer nos vies, n'est-ce pas? Et d'élever nos enfants basés sur les Écritures afin qu'ils aiment les Écritures. Savez-vous qu'il est prouvé qu'un enfant, à l'âge de 12 ans, s'il n'a pas l'amour de la lecture, il n'aura jamais l'amour de la lecture durant sa vie, à moins qu'il y ait une régénération de la part de Dieu. Nous devons apprendre à nos enfants l'amour de la lecture. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous pouvons apprendre même à lire à nos enfants avec la Bible. Le diable sème toutes sortes de mensonges dès le jeune âge de nos enfants par la société. Nous devons rectifier ces mensonges. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons le faire. Inculquons à nos enfants les instructions bibliques dès un jeune âge et ils s'en rappelleront, ils ne les oublieront pas. Quel est notre rôle en tant que parents? C'est d'inculquer dans nos enfants l'amour de Dieu et la vérité de Dieu. On peut le faire de façon formelle avec des leçons suivant les âges, les leçons spirituelles, les leçons bibliques, la lecture de la Bible, ou tout simplement, vous allez vous promener aujourd'hui, le ciel est magnifique, on peut dire « Oh, regarde, mon fils, comme le ciel est beau !» Ou un soir, en voyant le firmament des étoiles, « Regarde ce que Dieu a créé, la puissance qu'il a pour maintenir les cieux et la terre ensemble !» Il y a mille et une façons d'enseigner les enfants, de leur inculquer la parole de Dieu et les grandes vérités. J'aimerais vous citer maintenant ce qu'a dit la femme de John Wesley. Non, la maman de John Wesley, pas son épouse. Mère de 17 enfants, dont Jean et Charles, d'accord? Le parent qui s'évertue à inculquer, vous savez qui c'est qui a eu 17 ans avant aussi, hein? Jean-Sébastien Bach, retenez ça, bon, qui était un chrétien. Le parent qui s'évertue à inculquer la maîtrise de soi à son enfant travaille avec Dieu au renouvellement et au salut d'une âme. Le parent qui manque de le faire fait le travail du diable, rend la religion impraticable, le salut inaccessible et permet à tout ce qui sommeille dans l'enfant de le mener à la damnation éternelle du corps et de l'âme. Cette citation, je pense qu'elle est liée à une certaine expérience. 17 enfants, dont John et Charles, qui sont devenus des revivalistes, n'est-ce pas, dans leur pays, et qui ont provoqué un réveil spirituel. L'éducation peut marquer la vie d'un enfant et marque la vie d'un enfant. Nous devons favoriser le salut, nous devons favoriser la vie de Dieu, la maturité spirituelle à la vie d'un enfant. Alors la question se pose maintenant, quel type de parent êtes-vous? Un parent équilibré selon la Bible ou un parent? Et j'ai écrit toute une liste ici que je vous laisse regarder. Trop tolérant, laxiste, surprotecteur, acheteur, manipulateur, menaçant, temporisateur ou silencieux, donc fuyant, absent, suppléant, inabordable, décourageant, centré sur l'enfant. Toutes ces choses sont possibles dans la nature humaine des parents. Mais toutes ces choses peuvent être rectifiées par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des parents, liée à l'application et à l'obéissance aux Saintes Écritures. Oui, Dieu veut réformer nos comportements en tant que parents. Combien de fois ma femme et moi nous avons demandé pardon au Seigneur de ne pas savoir comment faire envers nos enfants. Combien de fois nous avons demandé pardon à nos enfants de nos erreurs. Nous devons apprendre, c'est vrai que c'est un apprentissage. Et si vous avez été élevé dans une famille chrétienne, vous pouvez vraiment louer le Seigneur. C'est un héritage extraordinaire. Et passez cet héritage à d'autres. Et réjouissez-vous si vous avez eu un papa, une maman dans le Seigneur qui prie pour vous, qui a prié pour vous. Réjouissez-vous et remerciez le Seigneur pour ça. Quelqu'un a dit ceci, si un enfant vit dans la critique, pour parler de la façon dont élèvent les enfants, il apprend à condamner. Si un enfant vit dans l'hostilité, il apprend à se battre. Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être timide. Si un enfant vit dans la honte, il apprend à se sentir coupable. Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend à avoir confiance. Si un enfant vit dans la louange, il apprend à apprécier. Si un enfant vit dans la justice, il apprend à être juste. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend à avoir la foi. Si un enfant vit dans l'approbation, il apprend à s'aimer. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver de l'amour dans le monde. Il apprend à aimer. J'aimerais terminer en vous parlant des 8 devoirs non négociables du mandat du Père. Père, élevez vos enfants. Vous êtes d'accord ? Premièrement, le père doit cultiver un sentiment d'identité familiale. Il doit être heureux dans son foyer, montrer qu'il est heureux d'être avec son épouse et ses enfants. Il doit constamment démontrer de l'amour envers son épouse. Comprendre et respecter le monde privé de l'enfant. À n'importe quel âge, un enfant a sa vie privée, doit être respecté. Il doit tenir ses engagements. Il doit donner à ses enfants la liberté d'échouer. Il doit encourager les membres de sa famille. Il doit étreindre ses enfants régulièrement. Il veut bâtir une relation de confiance avec ses enfants. Il doit le faire sur la parole de Dieu et non sur la sagesse humaine. Et maintenant, une clé, une question clé pour père. C'est presque terminé, rassurez-vous. Savez-vous comment on peut évaluer le succès ou non de l'éducation d'un père envers ses enfants? Quelle est la mesure de la confiance que font vos enfants? Est-ce qu'ils vont toujours vers maman ou vont-ils vers papa? Peut-être pas toujours. C'est vrai que maman a une relation privilégiée de tendresse, d'affection. Mais quelque part, quand un enfant, et je dirais, et on l'a testé, particulièrement dans l'adolescence, se tourne vers son père et partage ses difficultés, c'est quelque part bon signe. Ou qu'il a confiance envers son père. Assez confiance pour partager les affaires de sa vie. Mais au travers des années, quelle est la mesure de confiance qu'ont nos enfants, nous les papas? C'est un test. Parce qu'on peut dire, oui, ils ont toute leur confiance de leur maman. Mais où est la confiance de leur papa? Est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps d'avoir une relation avec leur père, parce que leur père a pris le temps d'avoir une relation avec eux? Conclusion. Je vous donne la traduction de la parole vivante d'Alfred Kuhn. J'aimerais qu'on termine avec cela. Vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les comme le Seigneur nous éduque en vous inspirant de ses conseils pour avertir et reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. Selon le Seigneur, dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu, selon les conseils de Dieu, non pas selon le cœur humain, mais qu'est-ce que dit Dieu ? Nous pouvons aimer nos enfants de façon humaine, très sentimentale, mais nous pouvons aimer nos enfants selon Dieu. Ça n'enlèvera pas l'amour affectif envers nos enfants. Mais nous avons ce défi. Prions, s'il vous plaît. Je vous invite un instant, bien-aimés, et particulièrement nous les pères, à réfléchir sur ce que nous avons entendu. Peut-être avons-nous eu des torts, puissions-nous les comprendre, les confesser peut-être devant notre épouse, devant nos enfants. Peut-être, en tant que père, vous ne nous avez pas pris le temps de vous équiper pour former, éduquer les enfants selon les Écritures. Ou peut-être en tant que futur père, vous devez dire « Oui, Seigneur, je veux être un mari modèle, je veux être un père modèle » et vous engager à prier pour que Dieu vous aide à comprendre son plan dans ce domaine. Je vous invite, vous, père, dans vos cœurs maintenant à prier le Seigneur et à dire « Seigneur, donne-moi ta sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, elle lui sera donnée. Priez, prions, que Dieu nous accorde la sagesse. Peu importe là où nous nous trouvons sur le chemin de notre vie, Seigneur, nous te demandons ta sagesse envers nos enfants. Merci d'avoir mis des épouses si chères à nos côtés, si tendres, si précieuses, pour élever nos enfants, aimés avec tant de tendresse et de consécration. Nous prions, Père, que tu bénisses nos chères épouses. Et je te prie, Père, qu'en tant que parents, mari et femme, papa, maman, nous aimions toujours nos enfants selon le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.